Parasha Bo. Au tout début de son commentaire sur la Torah, Rashi fait une remarque étonnante. Je lis. Rabbi Yitzhak dit, la Torah aurait dû commencer au chapitre 12 de l'Exode. Ce mois-ci est pour vous le premier des mois, puisque c'est la première mitzvah prescrite à Israël. Ainsi, comme la Torah est avant tout un livre de commandements, de mitzvot, la Torah aurait dû commencer logiquement, non par la création du monde, mais par le chapitre 12 du livre de Shemot, c'est-à-dire la Parasha Bo, là où apparaît la mitzvah du Korban Pessah, du sacrifice de Pâques. On a déjà des mitzvot dans le livre de Bereshit, mais ces commandements ont été donnés avant qu'Israël ne devienne un peuple. C'est pourquoi Rashi nous a expliqué que la mitzvah de Pessah dans cette paracha Bo est en réalité la première mitzvah adressée au peuple juif en tant que nation. Quand on lit les lois du sacrifice pascal, un détail saute aux yeux immédiatement. Les mots maison ou aussi famille, mais surtout maison, reviennent sans arrêt. On parle d'un agneau pour sa famille paternelle, un agneau pour maison. On ordonne d'enduire les deux poteaux et le linteau des maisons où on le mangera, le sacrifice pascal, etc., etc. C'est une insistance remarquable. D'autant plus que dans tous les autres sacrifices, tous les autres korbanot, ces notions de maison ou de famille n'apparaissent pas du tout. Dieu veut transmettre un message fondamental à travers cette mitzvah. Au moment même où commence l'histoire nationale, au seuil du désert, la Torah place le foyer au centre, la famille, la maison au centre. D'ailleurs, dès l'ouverture du livre de Shemot, la Torah souligne que Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte. Donc c'est Jacob, c'est une famille qui descend en Égypte. C'est cette structure familiale, ce foyer solide qui leur a permis de traverser l'exil. Et c'est encore ce noyau familial qui les portera donc vers la délivrance finale. Alors regardons rapidement ces versets où sont présentés les noms maison, les mots maison et famille, en explorant le sens midrashique ou mystique que l'on trouve derrière tout cela. On présentera ensuite une tentative de synthèse sur l'importance du noyau familial pour le judaïsme. Alors, les versets, je ne vais pas vous les lire en hébreu, vous me ferez confiance, mais voilà rapidement disons, l'essence des versets concernés sans chercher à faire une traduction littérale. Donc, on a un agneau pour chaque maison, pour chaque famille paternelle. Ça, c'est dans le verset 3. Verset 4 du chapitre 12 toujours. Hein. Si la maison est trop petite pour un agneau, on partage avec le voisin. Verset 7, on met le sang sur les poteaux et le linteau des maisons, où l'on mangera l'agneau. Puis le sang sera un signe sur les maisons, etc. Je ne vais pas tous les citer, ce serait fastidieux, mais on voit qu'il y a toute une série de versets où le mot maison est compris parmi les mots. Également, à propos du pain, donc dans le chapitre 13, le pain levé ne doit pas être vu dans tes maisons pendant les 7 jours de la fête de Pessah. On peut s'interroger pourquoi, cette insistance? Eh bien justement parce que le peuple juif est structuré autour de la maison et de la famille. C'est là que se trouve la force et c'est là que commence l'unité du foyer et au-delà de la nation. Regardons quelques versets avec leur dimension sod. Le verset 3, un agneau pour chaque maison, chaque famille paternelle, on a l'association explicite de famille et maison. Et pour un sacrifice, pour un korban, c'est tout à fait unique dans tout le Chumash. Bon, on sait que la maison renvoie à la dimension malchoute et que la famille renvoie à la notion d'union des séphirotes. Voilà, autre verset. On mettra le sang sur les poteaux et le linteau des maisons. Les poteaux représente pour la dimension sod les colonnes du monde. Deux colonnes, Hesed à droite, Gvoura à gauche. Et le sang sur ces trois points du cadre de la porte représente en quelque sorte l'activation des colonnes pour protéger la maison. Question, la dixième plaie. Restez à l'intérieur de vos maisons. Pourquoi les maisons juives furent-elles épargnées? Nous connaissons tous cette image, l'Égypte plongée dans la nuit, les cris montant des foyers égyptiens au milieu de ce chaos, alors que les maisons d'Israël étaient silencieuses, intactes, protégées. Et la Torah insiste, il n'y avait pas de maison égyptienne sans mort, et également, Dieu épargna les maisons des enfants d'Israël. Le Midrash remarque que la Torah ne dit pas Dieu épargna les personnes qui habitaient ces maisons, mais que Dieu épargna les maisons, comme si la maison elle-même avait un statut particulier, un statut spirituel. Et de fait, le Midrash explique, la maison juive est un sanctuaire miniature. Ce n'est pas seulement un lieu où l'on vit, elle est un espace où réside la Shekhina, la présence divine. Et c'est pourquoi la plaie ne pouvait pas y entrer. La mort des premiers-nés n'est pas un châtiment, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. C'est la conséquence de l'effondrement de la structure spirituelle de l'Égypte. Parce que les maisons d'Égypte, c'était des espaces de division, d'idolâtrie, de domination. Et donc, c'est toute une structure spirituelle qui est totalement effondrée dans ce type de maison. Et donc, en conséquence, pas de lumière. Et cette maison-là ne peut tenir, d'où la destruction et la mort des premiers-nés. Dans ce contexte, on peut se demander pourquoi Israël devait rester à l'intérieur des maisons. On l'a dit, la Shekhina étant présente, c'est là qu'ils étaient à l'abri. Mais le verset est explicite. Personne ne sortira jusqu'au matin. Et le Midrash répond, parce que la protection n'était pas sur les individus, mais sur la maison elle-même. Quitter le sanctuaire que représentait la maison, c'était s'éloigner de la Shekhina, donc on pourrait prendre l'image de l'aile protectrice de la Shekhina. La maison juive, c'est donc un lieu de délivrance. Ce n'est pas au bord de la mer, ce n'est pas dans le désert que la délivrance d'Israël a commencé, c'est dans la maison. Avant de devenir un peuple, Israël doit devenir des familles. Avant de recevoir la Torah, Israël doit recevoir la sainteté du foyer. Le message est donc clair. La force d'Israël ne vient pas de ses armées, ne vient pas même de ses chachamim, mais de ses maisons. Dans le sens que l'on a expliqué, une maison de sainteté. Aujourd'hui, la maison juive devient un endroit où l'on allume les bougies, les lumières de Shabbat par exemple, où l'on mange ensemble, en famille, où l'on parle de Torah, où on transmet la Torah et les actions extraordinaires de nos chachamim, où on protège la paix du foyer. Cette maison-là est intouchable. Le destructeur ne peut pas y entrer, ni en Égypte, ni aujourd'hui. En conclusion, la plaie des premiers-nés n'est pas seulement un épisode historique parmi les neuf plaies précédentes, à la conclusion des neuf plaies précédentes. C'est une leçon éternelle, une leçon pour aujourd'hui aussi. Quand la maison est un sanctuaire, elle devient un espace que même la mort des premiers-nés, et en général la mort, ne peut franchir. La délivrance commence en fait chez soi, dans la lumière du foyer, dans la chaleur de la famille, dans la fidélité à la tradition juive. C'est là que Dieu protège, c'est là que Hachem délivre. En fait, la famille dans le Midrash et dans le Sod n'est pas qu'une simple cellule sociale. Les maîtres, nos maîtres, ont expliqué, ont développé une vision d'une profondeur tout à fait extraordinaire, où le foyer devient un Beth Amikdash Katan, un sentier miniature, et le mariage également est une union de niveau spirituel. Chaque enfant qui naît est une étincelle descendue des mondes supérieurs. Et les enseignements de nos maîtres montrent comment une famille juive se situe au centre du projet divin. Car la famille, c'est le fondement de la création. Tant que la famille n'est pas créée, la création n'est pas achevée. Ainsi, dans le Midrash, il est expliqué, le monde n'a été créé qu'à cause de la famille. Une affirmation qui s'appuie sur le verset de Bereshit, du deuxième chapitre, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La création d'Adam seul est donc déclarée non bonne. Ce n'est pas suffisant. Avec l'apparition du couple, Adam et Chava, la création devient complète. Et en même temps, on voit apparaître la première mitzvah donnée à l'humanité, croissez et multipliez. Ainsi, la famille est la première institution voulue par Hachem et telle que cela apparaît dans les premiers chapitres du livre Bereshit. Il y a une dimension sode également qui fait que l'union du masculin et du féminin est la condition même de la circulation de la lumière divine. Sans quoi, ces mondes restent séparés, la bénédiction ne descend pas, la création demeure incomplète. Ainsi, le Midrash Tanhuma précise d'ailleurs que c'est un sanctuaire miniature. Également, le même Midrash explique, quand un homme et une femme vivent en paix, la Shekhina réside entre eux. Et nos maîtres remarquent à ce propos sur l'orthographe des mots ish, homme, et isha, femme. Ils remarquent cette orthographe, eh bien, à propos de l'orthographe de ces deux mots, que chacun de ces mots contient une lettre du nom divin, yod ou he, lorsque la paix règne, la présence divine demeure dans le foyer. Lorsque la discorde s'installe, Chas v'Shalom, il ne reste que Esh, le feu destructeur. Le Talmud souligne également que l'allumage des bougies du Shabbat apporte le Shalom Bayit, la paix au foyer. Et dans le Sod, cette idée est encore approfondie. Le foyer va même non seulement devenir un petit sanctuaire, mais même une réplique du temple. La table familiale est comparée à l'autel. Le repas du Shabbat a une offrande sacrée. Les bougies, enfin la lumière, les bougies, les flammes, les veilleuses du Shabbat, comparées à la lumière du temple. La femme incarne la dimension malchoute, gardienne de la lumière, tandis que l'homme incarne la dimension yesod, c'est un canal de bénédiction. Le foyer devient ainsi un lieu où les mondes supérieurs vont se connecter au monde matériel. Bien entendu, dans ce contexte, les enfants ont une grande importance parce qu'ils sont carrément le prolongement de la création et du premier commandement, de la première mitzvah. Le Midrash Bereshit Bara explique, celui qui met un enfant au monde, c'est comme s'il avait créé un monde entier. Et malheureusement, le Talmud ajoute aussi, celui qui n'a pas d'enfant est considéré comme mort. Pourquoi une telle intensité, une telle dimension dramatique? C'est parce que chaque enfant prolonge la création, assure la continuité d'Israël, porte une étincelle divine unique. En fait, le Harizal explique à ce propos que chaque enfant est une âme envoyée pour une mission précise. Les parents, dans ce contexte, deviennent des partenaires de Dieu dans la création, puisque cette descente d'âme depuis les mondes supérieurs, eh bien, ils s'associent à Hachem pour faire qu'elle devienne possible. Ainsi, la famille n'est plus vue ainsi, n'est plus seulement un contrat social, comme on l'a dit, hein, par exemple, c'est aussi un lieu où les âmes entrent dans le monde. Et dans ce contexte, Les Tifri enseignent, tu les enseigneras à tes enfants, en relation également avec la Torah, bien sûr. Il s'agit des enfants biologiques. Et à tes élèves, ce sont aussi tes enfants, les élèves. La famille est le premier lieu d'enseignement de la Torah. Car la transmission, c'est d'abord la mission de la famille, mais également d'autres lieux, bien sûr. Mais le Seder de Pessah est un exemple même de transmission parent-enfant dans le cadre du foyer. La paix du foyer, c'est une valeur suprême. Le Midrash enseigne que Dieu accepta même que son nom soit effacé pour préserver la paix conjugale. On fait ici au rituel de la Sota, qui est expliqué dans une paracha ultérieure, pour rétablir la paix entre un homme et une femme. Aucune mitzvah n'a un tel statut dans toute la Torah. Donc la paix du foyer, c'est véritablement une valeur suprême. Et au niveau symbolique, c'est en quelque sorte l'harmonie entre Chesed et Gvoura, entre l'amour et la rigueur. Sans la paix, les canaux divins se ferment. Avec la paix, au contraire, ces canaux sont ouverts et la Shekhina réside dans la maison. Ainsi, la paix familiale est une condition de présence divine. On a vu que la famille est la raison de la création, le lieu de la transmission, la base du peuple juif. On a vu que la famille, c'est un sanctuaire miniature, un canal de lumière divine, un lieu même de réparation des mondes. Ainsi, ce n'est pas seulement une structure sociale, c'est le moteur de la réparation du monde. Et on comprend mieux pourquoi ces mots, famille et maison, ont été articulés dans tout le début de cette paracha. Bon. Je voudrais à présent, pour conclure, avoir quelques réflexions générales sur la famille. D'un point de vue sociologique, cette fois. La famille, c'est un lieu de solidarité, c'est un espace de transmission, c'est un refuge affectif. Bref, c'est un cadre structurant pour les enfants. Or, aujourd'hui, dans le monde occidental, en France, dans les pays européens en particulier, le foyer comportant un couple et des enfants, lorsqu'il existe encore, ne représente plus qu'une configuration parmi d'autres. Aujourd'hui, on trouve des familles monoparentales, des familles recomposées, des couples non mariés, des cohabitations intermittentes, des couples homoparentales, voire aussi, bien sûr, des adultes vivant seuls. De plus, la famille élargie, autrefois pilier de la solidarité intergénérationnelle, cette famille élargie a pratiquement disparu du paysage occidental. Les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins ne constituent plus un groupe structurant du quotidien. C'est, quand ils existent encore, dans les relations, un réseau affectif très lâche, parfois même dispersé géographiquement, en tout cas plus du tout impliqué dans la vie domestique des membres d'un foyer parent-enfant. La désagrégation de la cellule familiale en Occident est un phénomène qui découle d'un ensemble de transformations profondes qui touchent la famille. L'individu devient la référence centrale, le rôle des femmes a changé, l'accès au travail, indépendance financière, maîtrise de la fécondité par exemple, le recul des institutions religieuses aussi, et de la foi. Ces transformations ont pour conséquence la hausse des divorces, l'isolement social des individus, la précarité des familles monoparentales, la perte des repères affectifs pour les enfants en particulier, et même pour certains enfants, un sentiment d'insécurité affective au moins. Cette situation donne donc matière à réflexion, notamment lorsqu'on lit ce qu'en disent les sociologues. Par exemple, pour Émile Durkheim, la famille constitue le premier cadre de socialisation et de solidarité. C'est le cadre où l'enfant apprend les règles, les valeurs, tout ce qui va structurer sa vie sociale ultérieure. Et le sociologue américain Talcott Parsons, plus proche de nous, a formulé l'idée selon laquelle la famille constitue le premier lieu de solidarité, de transmission et de stabilité affective. Le chapitre que l'on a étudié au début de la paracha Bo nous montre l'importance fondamentale de la maison juive et du foyer.